Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le vendredi 6 juin 2025. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne s'est pas ennuyé hier et que l'on ne devrait pas non plus s'ennuyer ce vendredi. Et encore, je me dis qu'on a de la chance qu'il n'y ait pas 2 Trump et 3 Elon Musk sur Terre. Sinon, mes chroniques ne seraient plus des chroniques, mais il faudrait faire un live toute la journée pour pouvoir gérer tout ce qui se passe. En tous les cas, cette fois, on ne va pas se plaindre parce qu'il y a des montagnes de choses à dire, des montagnes qui ne résolvent aucune équation et qui ne règlent rien, mais qui ont au moins le mérite de nous donner de quoi écrire des scénarios pour la future saison Netflix qu'on ne manquera pas de nous sortir. Tout d'abord, la BCE a baissé les taux comme prévu et leur communication a été très floue, puisqu'en gros, on sait que ça devrait plus baisser, sauf si la situation l'exige. Taux de dépôt à 2%, inflation attendue à 2% en 2025, croissance molle, mais on garde le sourire. Christine Lagarde nous a fait du Lagarde. On baisse, mais peut-être qu'on s'arrête. Traduction, on a vidé la trousse de secours. Et maintenant, on espère que ça cicatrise tout seul. Et puis, Lagarde a aussi dit qu'elle ne quitterait pas son poste avant la fin de son mandat, histoire de faire suite aux rumeurs de son départ en direction du World Economic Forum. Sa fidélité est touchante, mais en fait, c'est juste que le WEF n'a pas encore mis assez de zéros sur le chèque. Côté Allemagne, le bâtiment est toujours en PLS, mais en revanche, le moral des patrons est toujours au top, et c'est marrant parce que ça coïncide avec le chèque en blanc de 1000 milliards signé par le gouvernement pour fêter leur arrivée au pouvoir. Si le moral est bon, c'est que tout le monde veut et espère une part du gâteau. Toujours est-il que le DAX est au plus haut de tous les temps, pendant que la Suisse s'emmerde dans son range de 250 points et termine sa journée avec pour seul titre de gloire le fait d'avoir fini au-dessus des 12 300, tout en annonçant un chômage à 2,8% inchangé. Chiant comme le range du SMI. Et pour terminer, on notera que Paris était le seul indice local qui finissait dans le rouge, un rouge léger puisque le CAC reculait de 0,18%, mais le message était clair, on aurait préféré que la BCE ne sous-entende pas que le cycle de baisse des taux touchait à sa fin. On aime bien vivre dans la perspective que la Banque centrale va nous aider. Quand on comprend qu'elle n'a plus grand-chose à nous offrir, on grince des dents. Ensuite, Trump a parlé à Xi. Alors peut-être la news qui était censée nous exciter le plus, sauf que ça n'a pas été le cas. Le call a été constructif. Xi a invité Trump à venir en Chine et Trump a invité Xi à venir aux États-Unis. On espère qu'ils vont vérifier leurs agendas avant d'organiser leur voyage, parce que ce serait ballot que Trump se retrouve en Chine pendant que Xi est dans l'avion pour aller à Washington. Pour faire simple, rien de neuf, du blabla diplomatique, des invitations à bouffer et un accord commun, celui de continuer les négociations sur les droits de douane, si, les mêmes qui sont au point mort depuis 2 semaines. Résultat, on nous a chauffé sur cet échange téléphonique et ça a eu à peu près autant d'intérêt pour les bourses mondiales que la chamaillerie entre Macron et sa grand-mère l'autre jour en Asie. Et pendant que Trump discute, les marchés jouent au poker menteur et à Wall Street, on attend les chiffres de l'emploi comme on attend les résultats d'un test de grossesse dans l'angoisse absolue. Ensuite, c'est là qu'on entre dans les choses intéressantes. C'est d'ailleurs clairement ça qui a mis de l'ambiance sur les marchés, la chronique d'un divorce. Vous croyez que marié au premier regard était le summum du suspense romantique et le pinacle du voyeurisme, tout en étant un des sommets de la connerie audiovisuelle, que nenni, c'était sans compter le nouveau drame qui se déroule en direct sous nos yeux et sur X, l'explosion en live de la bromance entre Trump et Musk. Et ça prend tellement d'importance et de temps aux médias et aux bourses mondiales de se prendre la tête avec ça, qu'aujourd'hui, je suis presque obligé de me taper une édition spéciale dans l'édition spéciale matinée de Breaking News pour aborder le sujet. Nous voici donc dans le nouvel épisode de cette fabuleuse série d'amitié et de magouilles politiques et financières qui s'intitule « Quand Trump divorce de Musk, chronique d'une amitié qui valait 150 milliards ». Il y a encore 3 mois, Elon Musk disait de Donald Trump « Je l'aime autant qu'un hétéro peut aimer un autre homme ». Hier, le fantasque milliardaire autiste sous kétamine balance que Trump est lié à Epstein et que c'est pour ça que l'on n'a toujours pas tous les documents et qu'il sabote l'économie avec un tas d'abominations fiscales et qu'il va débrancher les fusées de la NASA qui sont censées balader les astronautes américains dans l'espace. Et tout ça en public sur X. Mais attention, Trump n'est pas en reste puisque de son côté, il menace de couper 21 milliards de contrats fédéraux à SpaceX, un peu comme un père fâché qui reprend les clés de la bagnole en disant « puisque tu fais des conneries, t'es interdit de sortie ». Tesla perd pas loin de 200 milliards de valorisation. Le titre a perdu 25% depuis le 29 mai. Trump Media chute de 8%. Et les marchés aussi entre fou rire nerveux et panique sur Tesla. Alors comment deux superstars qui avaient tout à gagner ensemble ont-elles pu déclencher un mini crash juste avec leur tweet? En réalité, c'est assez simple. L'ego, le pouvoir, le besoin irrépressible d'être au centre de l'attention et pas mal de pognon aussi. Tout d'abord, au chapitre 1, il y a l'histoire d'amour. Tout commence comme un conte de fées politique. Trump devient président pour la seconde fois et on ne peut pas nier que c'est un peu grâce à Musk. Le patron de Tesla injecte 300 millions dans la campagne de Musk et ensemble, ils rêvent d'un monde peuplé de voitures électriques, de fusées partout dans l'espace et de hausse de droits de douane sur tout ce qui n'est pas made in America. Trump, lui, déroule le tapis rouge en retour d'ascenseur. Musk devient haut fonctionnaire spécial, s'improvise nettoyeur de dépenses publiques et se retrouve invité à la Maison Blanche plus souvent que le livreur de chez DoorDash. Tout le monde y gagne. Depuis Liberation Day, Tesla a repris 69%. SpaceX empoche des milliards de contrats et Trump peut jouer les technomessies tout en martelant qu'Elon est tellement extraordinaire que c'en est presque gênant. Il organise des spots publicitaires pour Tesla devant la Maison Blanche et Musk est plus souvent à Mar-a-Lago qu'au bord de Tesla. Arrive ensuite le chapitre 2 que l'on appellera l'explosion non contrôlée. C'est là que le bill arrive. Et je ne parle pas de Bill Gates. Vous comprenez que l'on parle du budget de Trump pour le pays. C'est une abomination fiscale selon Musk. Et il le dit haut et fort. Il le dégaine sur X. C'est une abomination. C'est une honte de voter ça. Et on virera les traîtres. Trump, bien sûr, ne goûte pas l'ironie et le prend personnellement. Il commence sa vendetta. Il menace de couper tous les contrats et subventions à Musk, Tesla, SpaceX. Il l'accuse d'ingratitude. Il le vire de son rôle d'influenceur à la Maison Blanche. Il se moque de son œil au beurre noir. La rupture est consommée. La réponse de Musk est sans appel. Sans moi, Trump perdait l'élection. Quelle ingratitude! Et la cerise sur le contrat de divorce, Trump est dans les fichiers Epstein. Game over. Nous sommes passés de la bromance de l'année à un divorce médiatique écœurant qui ne fait que commencer. En conclusion, on commence à trouver que la guerre des égos coûte cher. Ce que l'on croyait être une alliance de génie s'est transformé en feuilleton géopolitique au boursier à rebondissement avec pour seul perdant les marchés et les contribuables. Musk menace de créer son propre parti, Trump menace de lui couper tous les vivres et la bourse regarde ça en se demandant si on n'est pas tous coincés dans un mauvais épisode des Simpsons. Alors que faut-il en penser sur le moyen terme? Volatilité politique amplifiée, tout ce que touche Musk devient explosif, Tesla fragilisé, les investisseurs veulent un CEO, pas un sniper politique, Trump de plus en plus imprévisible, la Trumpflation version 2025 est lancée. Et surtout, cette affaire confirme une chose, les marchés détestent les ruptures, surtout quand elles sont aussi bruyantes. En moins d'un mois, on est passé de Make Innovation Great Again à Kill Bill et Epstein Files. L'éclatement du duo Trump-Musk a coûté des centaines de milliards au marché et les investisseurs commencent à craindre un Musk plus occupé à faire la guerre politique qu'à diriger ses boîtes et la bourse découvre que les clashs d'ego, même en 280 caractères, ont un prix. Est-ce que la rupture est définitive? Impossible à dire, mais une chose est sûre, entre les fusées qui explosent, les tweets qui incendient et Tesla qui perd connaissance en bourse, ces deux clowns ont réussi à éclipser la guerre tarifaire et les négociations commerciales à deux balles entre la Chine et les USA. Hier, c'était bien simple, on ne parlait presque que de ça. Tesla s'est pris plus de 14% dans les dents rien qu'hier et les marchés terminaient tous en baisse pour fêter ce nouvel épisode qui frise quand même le tout grand n'importe quoi puisque ça nous amène tout de même à réaliser que nous sommes toujours en train de baser nos décisions d'investissement sur les agissements et les réactions de deux mecs qui auraient tous les deux pu jouer le rôle du méchant dans n'importe quel James Bond. Alors oui, ce matin, le divorce du siècle prend énormément de place, pour pas grand-chose d'ailleurs, il faut le dire, mais l'actualité n'attend pas, si l'on se penche sur l'Asie, l'ambiance est morne et terne ce matin, tout le monde attend les prochaines annonces hypothétiques de Trump sur la Chine, les chiffres de l'emploi US et la décision de la Banque Centrale Indienne. Bon, la Banque Centrale Indienne, c'est peut-être pas sur le podium des choses les plus attendues, mais quand même, ça donne au moins l'impression qu'on sait aussi s'intéresser à autre chose que le compte trousse sociale de Trump. Les indices ne font pas grand-chose. On notera la hausse du Nikkei, 0,5%, pour des raisons qui peuvent laisser pantois le commun des mortels, puisqu'on a annoncé que les Japonais dépensent moins que prévu. Et comme le consommateur ne consomme plus, du coup, la BOJ hésite à monter les taux. Donc, ça monte. En résumé, le mood n'est pas top, mais comme on ne montera pas les taux, c'est bon pour la bourse. Oui, je sais, faut suivre, mais c'est comme ça. En Chine, même après un appel positif entre Trump et Xi Jinping, les indices font du surplace. Les investisseurs ne veulent plus de promesses, ils veulent des deals, des vrais, et pendant ce temps, l'industrie chinoise se fait rincer par les tarifs US. Côté 1 de la Banque centrale devrait donc baisser ses taux dans la journée. Logique, croissance molle, inflation sous contrôle et besoin de soutien. Le marché indien devrait être dans le vert aujourd'hui. Merci au QI version Curry. Du côté du pétrole, le baril est à 63,20, l'or est à 3395, le bitcoin est à 102 500 et le rendement du 10 ans américain est à 4,387 dans un silence assourdissant. Hier soir, il y avait encore quelques publications trimestrielles qui méritaient d'être signalées. Tout d'abord Broadcom, qui était de sortie, et l'autre empereur des semi-conducteurs n'a pas déçu le marché. Mais oui, parce qu'en ce moment, il y a souvent un « mais ». Et aussi fou que ça puisse paraître, dans le cas de Broadcom, ce n'est pas qu'ils ont déçu sur les attentes, puisqu'au contraire, ils ont fait mieux que les attentes. La logique voudrait donc que l'on cherche la raison de la baisse de 4% after close du côté de la guidance. Mais là encore, tout cru, patate crue, la guidance était dans les clous. Il ne reste donc plus qu'à utiliser le bon vieil argument du « oui, mais c'est quand même beaucoup monté ». Et il est donc immédiatement et souvent suivi par le traditionnel « il est parfois bon de prendre les profits ». Bref, après un run de 88% en moins de 2 mois pour anticiper les bons chiffres, voici que Broadcom était en baisse de 4% pour prendre les profits. CQFD. Il y avait aussi Lululemon, alors que Lululemon, bien sûr, vous connaissez, c'est les fringues pour le yoga, enfin, vous connaissez surtout si vous faites du yoga, et vous en doutez, c'est pas trop mon truc, le yoga. Mais toujours est-il qu'hier, Lululemon a fait le grand écart et s'est déchiré les adducteurs, et résultat meilleur que prévu, mais prévisions revues à la baisse à cause des tarifs douaniers et les ventes faiblardes en magasin. Le titre s'effondre de 22% after close, les ventes aux USA reculent, les clients sont frileux et la concurrence pousse très fort. On termine avec l'IPO du jour, celle de Circle, le boss des stablecoins, s'introduite à $31 sous le ticker CRCL. L'action ouvert à $69, fait un bond jusqu'à $103.75, soit 235% de hausse, et a fini à plus 168% à $83.23. Derrière cette euphorie, une demande de dingue, une IPO sursouscrite et une boîte qui imprime du cash grâce aux intérêts sur ses réserves de USDC, sa crypto-monnaie adossée au-delà. Résultat, une valorisation directe à 18,4 milliards. La boîte et ses investisseurs empochent 1,1 milliard au passage. Les signaux sont là. Trump adore les cryptos. La SEC est moins punitive, voire même arrangeante. Un projet de loi, le Genius Act, pourrait sécuriser les stablecoins. Et tout le secteur jubile. Coinbase, Robinhood, Galaxy Digital et eToro, tout ce petit monde profite du vent favorable, mais attention, Circle reste derrière Tether, encore numéro 1 du marché. La différence, c'est que Tether est en mode pirate depuis El Salvador, et Circle, plus réglo, espère que la régulation américaine jouera enfin en faveur des bons élèves. En résumé, crypto plus Trump plus regulation friendly égale boom boursier, et si l'IPO de Circle est un indicateur, préparez-vous, car d'autres vont suivre. Du côté des chiffres du jour, nous aurons la production industrielle et le trade balance en Allemagne, le PIB en Europe et Lagarde qui parlera. Sûrement pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'elle a dit hier. Et puis surtout, il y aura les chiffres des non-farm payrolls. Hier, les chiffres des jobless claims étaient tout pourris pour la seconde semaine consécutive. On s'attend donc vraiment à des chiffres de merde. Les attentes sont à 126 000 créations d'emplois. Le taux de chômage devrait rester à 4,2% et la croissance des salaires devrait être à 3,7%. Perso, si la surprise est positive, je me lèverai et jurlerai « Magouille ! Magouille !» très très fort. Autrement, en attendant, les futurs sont en hausse de 0,25% parce que Musk n'a pas encore craché une fusée SpaceX sur la Maison Blanche et que Trump n'a pas encore signé d'executive order contre Musk. Autrement, je vous rappelle que le 18 juin aura lieu le Swissco Trading Day à Lausanne. Ça durera presque 6 heures et ça finira avec un apéro. C'est gratuit. Il faut vous inscrire et ça se remplit très, très, très vite. Et donc, il faut vous inscrire. Enfin, si vous n'avez rien de mieux à faire, bien sûr, voici le lien. Et j'en profite aussi pour vous signaler que dorénavant, investir.ch travaille main dans la main avec Zone Bourse. Nous allons republier certains de leurs articles et personnellement, je publierai une fois par semaine une vidéo sur leur chaîne YouTube avec pour thème La finance, ouais, quelle surprise me direz-vous. Mais là, on va parler de finance décomplexée et c'est pas pareil. La vidéo sera publiée tous les vendredis matin à 6h et la seconde vient d'arriver. La voici d'ailleurs et je vous mets aussi au passage le lien de la première. Pour le reste, demain, c'est le week-end. Alors bon week-end et en plus, c'est le week-end de Pentecôte. Alors on se revoit mardi, donc bon week-end de Pentecôte. À mardi, histoire de voir si Musk nous annonce dimanche soir que Trump a aussi assassiné Kennedy.